Topette.
Bonjour Pierre-Antoine, bonjour Étienne.
Bonjour.
Salut.
Alors Pierre-Antoine Guérin, surnommé Tucker, toi tu es responsable de la guinguette du Rouge et Loire. Et Étienne Maté, c'est comme ça qu'on prononce ton nom ?
Mater, c'est mieux.
Ouais, Mater, ça fait plus stylé. Pour la faire courte, toi tu es programmateur du Héron Carré, de guinguettes bien connues des Angevins, tant leur popularité est forte, tout comme leur lien, on va pouvoir y revenir tout à l'heure également. Vous avez déjà commencé votre saison, puisque respectivement le 25 mars pour le Héron Carré et le 30 mars pour le Rouge et Loire, ça a été l'ouverture. On va pouvoir également parler de ce qui va arriver pour les deux guinguettes, mais avant cela, Étienne Tucker, je vais vous poser une question très simple, d'apparence en tout cas. Est-ce que vous pouvez me définir à tour de rôle ce qu'est une guinguette, Étienne ?
À la base, je pense que la définition de la guinguette, c'est quand même relativement simple. C'est un espace de convivialité. Et quand on dit convivialité, c'est-à-dire boire, manger, se détendre et profiter d'une animation au bord de l'eau. Voilà. Et en général, les guinguettes, c'était surtout au bord de la Loire. Et au Héron Carré, on a la chance d'être au bord de la Maine pour changer un peu. Mais je définirais ça ouais, comme ça, espace de convivialité au bord de l'eau pour boire, manger, se détendre. C'est déjà pas mal.
C'est vrai qu'on a deux cadres différents, Maine et Loire, mais ça, on va y revenir un petit peu plus tout à l'heure. Et toi, Tucker, justement, est-ce que tu as quelque chose à rajouter à cette définition d'Étienne sur
bon, Non, c'est ça. À la base, une guinguette, c'était, je sais pas à quelle époque c'est vraiment apparu, mais c'était vraiment le truc au bord de l'eau où il y avait du vin à que dalle. Tout était très, très, très accessible, en fait. C'était hyper prolo, hyper populaire. Donc c'était oui des petits concerts et les gens se retrouvaient pour grignoter et pour picoler.
C'est ça. Voilà. Avec des balles.
Avec des balles.
Avec des balles. Mais à la base ouais c'était des sortes de petits cafés populaires comme ça dit ouais. c'est un peu le bon terme. Et est-ce que justement vous considérez comme des guinguettes modernes parce que du coup vous proposez maintenant à manger, on a beaucoup plus de concerts qu'avant et également plus de fréquentation. Est-ce que ouais, vous vous considérez comme des guinguettes modernes ?
En fait, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, guinguette moderne. En fait, je pense que ça s'est adapté avec le temps, surtout. Aujourd'hui, tu es habitué à voir des concerts, tu es habitué à manger et à retrouver tes potes. Là, il fait beau, du coup, c'est dehors. Enfin, non, je ne sais pas ce que ça voudrait dire. Moderne, évidemment que ça s'est modernisé, parce que je pense que plus personne n'aime l'accordéon. Mais...
C'est faux.
Non, mais tu vois, on s'adapte avec son temps, quoi, je pense.
Alors, comme je l'ai dit en préambule, vos deux guinguettes, elles sont liées. Vous avez les mêmes propriétaires, je crois savoir, Étienne.
Effectivement, on est la même entreprise avec deux établissements, que sont le Rouge et Loire et le Héron Carré, avec deux propriétaires, effectivement.
Et comment il se traduit ce lien au quotidien ? Vous êtes toujours en contact ? On essaie de faire des choses en commun, peut-être des fois également, Tucker ?
Ouais, on n'est pas toujours en contact parce que le rythme de la saison fait qu'en fait, on se concentre sur nos établissements. Mais après, bah ouais, en fait, on est combien d'annualisés ?
En ce moment, on est 7.
7. Du coup, effectivement, tu vois, nous, on finit le démontage du Rouget mi-octobre. Après, on fait beaucoup, beaucoup d'heures l'été. Du coup, novembre, décembre, on ne travaille pas, mais on est ici sur l'année. Après, en janvier, on se retrouve. Et c'est là qu'en fait, on va tout le temps travailler ensemble. Dans la mise en place de différents trucs. Et puis après, dès que l'établissement s'ouvre, par contre, ouais, t'as un peu moins le temps. Parce que c'est vrai que ce taf fait que tu. Enfin, t'as pas trop. Tu mets un peu en parenthèse ta vie sociale. Quoi.
Ouais, et puis après, pour préciser un tout petit peu, bon, déjà, il y en a qui travaillent l'hiver. Mais bon, ça. C'est derrière moi. Et puis, non, plus généralement, effectivement, on se connaît, on prépare, il y a la déconstruction, construction du Rouge et Loire qui se fait en commun entre les collègues annualisés, on se connaît, on a des prestataires communs, des fournisseurs communs, etc. On bosse ensemble. Après, c'est vrai qu'une fois que la saison elle est lancée, on est un peu plus chacun à gérer son établissement, d'autant plus qu'en fait, ça a beau être la même entreprise, comme on disait, c'est deux établissements dans deux endroits qui sont complètement différents. Deux établissements qui vont pas de guinguettes, qui vont pas au même rythme, qui n'ont pas la même programmation, qui n'ont pas la même fréquentation en termes de nombre, hein, je parle bien, parce que c'est souvent plein au Rouge et Loire aussi, etc., etc. Et qu'en fait, on est un peu séparés effectivement pendant la saison parce qu'on n'a pas les mêmes rythmes, pas les mêmes programmations. Et voilà, mais ça donne deux endroits qui ont leur identité propre en tout cas.
Oui, c'est ça, on n'a pas la même ADN dans les deux lieux. En fait, on pourrait, si on ne sait pas qu'il y a le même propriétaire, on n'est pas au courant que justement ces deux guinguettes-là sont liées. Et est-ce que pour vous, justement, c'était une volonté de ne pas tomber dans le côté commercial de la chose, parce qu'on a deux guinguettes qui marchent, on pourrait faire une seule et même marque, et au final, on crée deux lieux et deux expériences totalement différentes, Tucker?
Bah ouais, tu vas retrouver quand même la carte du bar qui va être à deux trois choses près la même au Héron et au Rouget. Mais après c'est vrai que bah tu vois, t'as deux chefs différents en cuisine, du coup forcément bah tu les laisses s'exprimer, c'est pas le même lieu. Tu vois, tu nous disais très bien, il y a une fréquentation qui est hallucinante au Héron. Du coup, il y a une programmation extrêmement éclectique, extrêmement poussée. Nous, c'est quand même un lieu qui reste un peu plus petit, familial, ça c'est voulu aussi, on n'a pas envie de suragrandir le truc.
Racontez-nous un petit peu l'histoire de vos deux guinguettes maintenant. C'est le Héron Carré, je crois que c'est la 10e saison, je crois, si je ne dis pas de bêtises,
ouais,
Étienne.
C'est bien ça.
C'est ça. Comment cette idée a germé? Alors je ne sais pas si toi tu étais là dès le début, ça a l'air pas, mais en tout cas, voilà, explique-nous un petit peu d'où est venue cette idée d'investir le parc Balzac.
Je vais te répondre sur la question. Alors effectivement, moi je suis là que depuis 3 ans. En CDI en tout cas, mais pour te répondre à ta question, en fait, c'est quand même un appel d'offres de la ville d'Angers. Donc c'est la ville d'Angers qui, pour le printemps-été 2015, donc en amont, on doit être en 2014, lance un appel d'offres en disant on veut qu'il y ait l'exploitation d'une guinguette à l'entrée du parc Balzac, au bord de la Maine, à Angers. Voici le cahier des charges. Maintenant, tous ceux qui veulent se positionner dessus, se positionnent. Un de nos deux patrons, Vincent Salva, à l'époque, qui était le gérant et le propriétaire gérant du Terroir Coco, à l'époque.
À côté du quai, c'est ça?
Ouais, rue Beaurepaire, café-concert historique d'Angers. Dit ah moi ça m'intéresse, il n'était pas avec notre actuel deuxième patron à l'époque, dit moi ça m'intéresse, je me positionne dessus, et qui vivra verra. Et qui vivra verra qu'il a remporté l'appel d'offres et qu'au printemps été 2015 est apparu le Héron Carré à son emplacement actuel. Mais à l'époque c'était juste une toute petite cabane en bois, sans eau courante.
La conteneur.
Ouais, c'était un conteneur sans eau courante et c'était que ça. Et donc, tu vois que 10 ans après, sachant qu'en fait, nous, on est renouvelé tous les 5 ans au Héron Carré, le marché est renouvelé tous les 5 ans, tu vois que 10 ans après, on est quand même changé de la cabane, de la toute petite cabane et du conteneur. C'est-à-dire qu'en fait, chaque année, ça s'est agrandi en fonction des besoins, aussi parce que ça a marché tout de suite et qu'on a créé un lieu aujourd'hui qui, effectivement, a un bar qui est de deux côtés, qui a deux terrasses, qui a une scène de concert principale, une autre petite scène, et qui est totalement identifiée. Mais le lieu, il s'est identifié effectivement par sa convivialité, par le bâtiment qui a évolué, par l'évolution de la programmation artistique et culturelle. Et aujourd'hui, je crois qu'on en a fait, en tout cas, sur notre période d'ouverture, un point de repère pour une partie de la population d'Angers et de l'agglo. Mais là, c'est pour résumer très très vite 10 ans d'histoire. 10 ans d'histoire au Héron.
Et est-ce que ces propriétaires, c'est également ceux qui ont fondé le Rouget Loire, ou pareil, il y a eu un appel d'offres avant, un autre propriétaire, des changements?
Non, c'est pareil. Du coup, en Rouget Loire, c'était 2017, appel d'offres de la mairie des Ponts-de-Cé. Là, pareil, Toufik n'est pas encore là. Si, il vient d'arriver.
Je ne sais pas.
Il vient d'arriver et en fait, Vincent s'était déjà positionné sur... parce qu'on cherchait à en faire une deuxième. Il y a eu plusieurs villes à côté d'Angers qui étaient intéressantes. Les Ponts-de-Cé, ça s'est... c'est apparu un peu... Enfin, quand tu vois le spot, tu fais, c'est là, quoi. et pareil, on a mis deux conteneurs. On a commencé pareil, avec à l'arrache de ouf. Hein, on avait... c'était un peu sport. Et dès l'année d'après, on a commencé à construire un peu à l'image du Héron, des cabanes, et petit à petit, voilà, on a trouvé la façon de faire maintenant, quoi.
Parce que toi, t'étais là dès le départ,
là-bas. Dès 2017, ouais. J'ai commencé à l'été 2016 au Héron Carré, et puis dès 2017, je suis au Rouget depuis le début. Ouais.
Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, vous, vos cadres, c'est la Maine, la Loire. On va en parler un petit peu plus parce que c'est le point fort aussi de vos guinguettes. Au-delà des boissons que vous proposez, des plats que vous proposez, des concerts que vous proposez, les gens viennent pour observer le paysage également. Est-ce que c'est des paysages, vous, qui vous plaisent déjà à l'origine ? Tucker, vas-y.
Bah ouais. Pas de ouf, quoi. Enfin, comment, je sais pas la réponse.
Tu veux réfléchir le temps que je réponde ou...
Ouais, vas-y. Non, mais tu vois, moi je kiffe la musique américaine country. Ce genre de paysage, ça me rend complètement dingue. Tu bosses dehors. En fait, avant, je travaillais dans des bars ou des cafés où tu finis à pas d'heure, tu travailles dans une grotte. Enfin, quand tu peux travailler dans ce paysage-là, évidemment que c'est un peu ouf, quoi.
Ouais, puis les Ponts de Cé, en plus, c'est une ville qui vit bien, très très bien.
Qui bouge très bien, t'es à 15 minutes d'Angers, à peine 20 minutes en vélo. En fait, ça se fait, ouais, c'est un peu de ouf. Ouais.
Et du côté du Héron Carré, la Maine, pareil, c'est un endroit incroyable. Et en plus, on a la vue sur le château.
Ouais, non, mais il y a, enfin, le spot au Héron, il est quand même assez incroyable. Mais il y a le bord de l'eau, effectivement, il y a le bord de Maine. On a quand même vu sur le château... vu sur le front de Maine, qui est quand même pas mal. Et puis, on a quand même pas oublié qu'on est à l'entrée du parc Balzac et qu'il y a le parc Balzac juste derrière nous. Donc, effectivement, on est une guinguette parce qu'on est au bord de l'eau. Mais il y a quand même un de ces énormes grands poumons verts d'Angers qui est le parc Balzac juste derrière nous, puisqu'on est à l'entrée du parc, qui est quand même un parc assez remarquable et qui est très, très beau. Et moi, c'est pareil, hein, j'adore être au bord de l'eau. Alors, je préfère être au bord de la mer qu'au bord de la Maine. Mais advienne que pourra, une nouvelle fois, qui vivra verra. Mais ouais, on est quand même extrêmement bien et c'est hyper confort sur ce plan-là de travailler là-bas. Après, ça a ses avantages, effectivement. Et ses défauts, quand on travaille dans une grotte, on est moins gêné par la météo que quand on travaille... à l'extérieur, qui est un autre point de débat sur l'avantage, les avantages et les inconvénients d'une guinguette, en tout cas.
En parlant de météo, moi j'aimerais revenir sur un épisode récent, les grands épisodes de crue. Est-ce qu'on a eu peur de votre côté par rapport aux réouvertures, parce que c'était vraiment le mauvais timing, Tucker?
C'est pas le mauvais timing, en fait, c'est que c'est jamais arrivé à ce point-là au mois d'avril. C'est vrai que c'est venu clairement lécher la terrasse, ça s'est joué à que dalle. Du coup, effectivement, ouais, on a eu peur. Et une fois cette peur-là passée, ben, on s'est rendu compte qu'on avait quand même énormément de chance, parce que ça rendait le lieu encore plus sympa. Mais oui, ça a été sacrément chaud, ouais. Oui, clairement.
Et du côté du Héron Carré, parce qu'on a le parking souterrain du quai qui a failli être fermé par rapport à ça. Donc, alors vous êtes un petit peu surélevé.
Oui, on n'est pas situé sous le niveau de, niveau de la Maine. Non, mais nous, au Héron, on a eu un peu moins peur, voire pas trop peur. Après, effectivement, c'est pareil, c'est impressionnant de voir le parc Balzac qui était totalement sous l'eau. Mais ce que disait Tucker, c'est que ça donne... en même temps, ça donne une vision, une image du parc Balzac qu'on n'aura pas souvent. Et c'est incroyable. Enfin, quand il est totalement sous l'eau et qu'il y a un peu de soleil, etc., ça donne des images. Voilà. Après, nous, on a l'avantage d'être un petit peu surélevé, que l'eau n'a jamais atteint ni le parking, ni le Héron... ni être à 15 cm de la terrasse ou du bois. Donc, on n'a pas eu très peur de ça. Nous, on a un peu plus peur du vent, de la grêle et de la pluie plutôt que de la crue exceptionnelle de la Maine, en tout cas.
Bon, du coup, votre saison, elle a failli débuter un petit peu en retard, mais finalement, ça l'a fait. Comment ça s'est passé, justement, l'ouverture de vos guinguettes et puis ces fameux DJ sets, parce qu'on a eu des DJ sets du côté du Héron Carré et du côté de en Rouge et Loire. Donc voilà, Étienne, par exemple, parle-nous de ce premier DJ set.
Bah, j'avoue que, pour tout avouer, le début de saison, il a été un peu long, clairement. Long parce que, en dehors des DJ sets, et j'y reviens après, mais il a quand même fait pas beau. Il a fait froid, il a fait du vent, il a fait de la pluie, et que les deux, trois premières semaines, là, jusqu'au week-end dernier, c'était compliqué. On a quand même pas mal fermé. Les gens ne sont pas venus tout de suite, mais c'est normal. Tu ne viens pas quand il fait 7 degrés et qu'il te pleut dessus. Je pense que tu as autre chose à faire. Après, on a eu un peu de chance et pas de chance, mais en gros, le premier week-end de la saison, on a fait que des DJ sets, presque que des DJ sets, mais on a annulé la venue de Scaramucci, qui est la tête d'affiche du début de saison au Héron, qui est reporté, la date va bientôt sortir d'ailleurs. Mais ça a fonctionné, ça veut dire qu'on sait que les gens attendaient qu'on revienne. Le DJ set, même le vendredi soir, qu'on a gardé sans Scaramucci, on fait près de 300 personnes pour le DJ set dans le froid. Le samedi, avec King Dirty Brass Band et DJ Spock, on fait 150 personnes. Et puis Groovencia, il y a 15 jours, ça marchait du feu de Dieu, de R200, 250 personnes à danser. La semaine dernière, c'était le premier beau week-end de la saison. Et autant te dire qu'on s'est fait éclater.
J'y étais.
Voilà, on s'est vraiment fait éclater. Puis il y avait un DJ set de Bransky. Donc voilà, pour l'instant, et là, il y a Big Alice en DJ set en house ce vendredi. Après, voilà, le Héron, c'est que des DJ sets en avril, avec des horaires un petit peu moins tardifs que d'habitude. Donc voilà, là, on est sur le tour de chauffe en attendant que le mois de mai arrive et qu'il fasse bien, bien beau, et qu'on puisse faire aussi des concerts en plus des DJ sets. Mais voilà, tout va bien. Et on a fait le dos rond, mais tout va bien.
C'est royal. Et du côté du En Rouge et Loire, cette ouverture, ça s'est bien passé?
Ouais, bah c'est super. On était contents parce que les gens ont vraiment joué le jeu sur... pareil, il faisait pas super beau ni très très chaud. Mais les gens sont venus, le DJ set s'est bien passé. On a fait une belle ouverture. Après, oui, les 15 jours qu'on suivit, tu vois bien, avec la météo, le froid, c'était pas incroyable. Mais pareil, ça a fait du bien, là, les 25 degrés du week-end dernier.
On voit surtout que dès qu'il fait beau, les gens ils ont envie de sortir, ils ont envie d'être dehors. Et voilà, et on prend le week-end dernier, les gens ils sont revenus d'un seul coup, mais vraiment d'un seul coup. Hein.
Et justement, cette hausse des demandes par rapport à la guinguette, vous, ça se concrétise comment chez vous? Parce que forcément, il y a de plus en plus de monde qui afflue. Toi, tu l'as dit, vous avez envie de rester familial et pourtant. La guinguette demande que à grandir, donc comment est-ce que ça se passe? Comment on gère cette expansion à ce niveau-là?
On recrute. Non, tu as deux choix généralement, c'est ce qui s'est passé au Héron, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment il y avait tellement de monde, qu'ils ont créé ce deuxième comptoir derrière, cette deuxième terrasse, les deux scènes différentes, mais en fait, plus tu vas grossir, plus ça va demander à grossir. Donc tu fais un choix. Nous, on pourrait essayer de faire un deuxième bar, un truc. Mais en fait, non. Pourquoi, quoi? T'sais, alors, les gens, ils viennent souvent à 18h. Bah ouais, il n'y a plus de table, il n'y a plus de chaise. Et en fait, depuis deux ans, ils viennent avec leur table et leur chaise. Ils viennent avec leur drap. Ils se mettent sur la plage en face, les machins. En fait, les gens s'adaptent d'eux-mêmes, quoi. Et on n'a pas envie que ça devienne une trop grosse chose, tu vois, que ça reste un peu un cadre, d'une part parce que s'il y a, y a des voisins, il y a, enfin, c'est un petit quartier, mine de rien, ce qui est un peu moins héros, vous êtes un peu plus reculé par rapport à ça, et donc du coup, ouais, donc tu t'adaptes, alors tu dis aux gens, la fois d'après, vous venez avec votre drap, et en fait, ça se fait hyper simplement, vu que t'as la plage en face, c'est un peu royal, quoi.
Ouais, puis en plus, la Loire se découvre
Au fur et à mesure qui arrive.
Ouais, c'est ça, donc ça fait encore plus de place.
C'est ça.
Est-ce que justement, dans ces périodes-là, on a une fréquentation à en couper le souffle?
Ouais, il y a beaucoup de monde. Surtout depuis le Covid, hein, parce que, en fait, depuis 2021, on s'est rendu compte que ça a vraiment, vraiment grossi à ce moment-là, quoi. C'est-à-dire qu'au début, on avait des gens qui venaient des Ponts-de-Cé, des alentours limitrophes et un petit peu d'Angers. Là, maintenant, les gens, ils viennent au Rouge et Loire. Donc, ou d'Angers ou de machin, parce qu'ils ont entendu parler et que. Donc, ça, c'est assez chouette. Après, le terrain qu'il y a devant nous fait que les gens peuvent se mettre où ils veulent. Après, en termes de service, des fois, il y a beaucoup de monde, mais on s'adapte, quoi.
Vous êtes combien aujourd'hui à bosser
Là, pour l'instant, on est 13 et pleine saison, on monte à 17-18.
Ok, mais vous recherchez actuellement ou pas pour des auditeurs qui seraient intéressés
À partir de mai, on va peut-être gonfler l'équipe parce que ce week-end, on s'est aperçu que ça va être la tendance de l'été, de toute façon, de se faire abonner comme ça. Du coup, je pense qu'il va falloir grossir un peu plus.
Le message est passé. Au-delà des propositions artistiques qu'on a un petit peu parlé tout à l'heure, est-ce qu'on a des nouveautés sur vos saisons, que ce soit au niveau des plats, au niveau des propositions du lieu, tout simplement, Étienne, par exemple?
On a fait des changements en cuisine, en tout cas, nous, cette année. On a une nouvelle chef, une nouvelle carte. Ça, c'est certain. Au bar, ça ne change pas excessivement. On a rajouté le kombucha de chez Penrose. Voilà. Non, je pense qu'il y a, ouais, y a un vrai changement en cuisine pour cette année au Héron et il fallait le faire. Voilà, parce que on a beau avoir des endroits qui sont réputés où des gens y viennent, il faut toujours chercher à s'améliorer aussi, à écouter ce qu'on nous dit et voir ce qu'on peut faire de mieux. Donc là, on avait du travail à faire sur la cuisine qui a été fait. Au bar, ça ne change pas excessivement. Et puis, en termes de lieu, ça n'a pas changé excessivement non plus. Et puis, en termes de programmation, ça ne change pas excessivement non plus. On est sur de la régularité au Héron, en tout cas pour cette saison.
La cuisine, quoi.
Ouais, surtout, surtout changement en cuisine. Mmh. Puis je me permets juste de revenir un tout petit peu sur ce que disait Tucker avant, sur le sujet d'avant. Je le rejoins là-dessus, c'est-à-dire que, on en parlait tout à l'heure, le Héron au début c'était juste une cabane en préfabriqué. Aujourd'hui, c'est très grand pour une guinguette, c'est très grand, très gros pour une guinguette. Il y a encore de la place pour s'étendre, mais pourquoi on irait s'étendre encore plus en fait ? Il y a un moment, si on veut conserver des endroits qui restent à taille humaine, qui restent vraiment conviviaux, en fait, on va pas. Et nous, tu vois, on est déjà au Héron, on est déjà 26 à bosser au Héron entre la cuisine, le bar et la programmation. Il y a un moment, est-ce qu'on a envie de se retrouver à bosser à 45, à être à McDonald's en fait ? Enfin, c'est alors effectivement, comme le disait Tucker, ça limite d'une certaine manière. Alors oui, effectivement, il y a la queue pour prendre à boire quand il y a vraiment du monde. Il y a la queue pour commander à manger. Il y a tous ces trucs. Il y a la queue aux toilettes. Non mais voilà. Il faut le dire. Et c'est vrai. Maintenant, est-ce qu'on a envie de ressembler à une vulgaire entreprise avec 50 salariés qui fait des burgers ? Non. Voilà. C'est pas le but. Donc, et au Héron, on est déjà très très grand. Et puis même, si je reprends juste la partie programmation, on a fait des concerts à 2000 personnes l'année dernière au Héron. Ça n'existe pas, des concerts de 2000 personnes dans une guinguette. Ça n'existe pas, normalement. On le fait, et après on nous a dit « Ah ouais, mais du coup, on pourra peut-être faire ci, faire ça. » Et puis moi, je réponds « Bah non, en fait. » Parce que déjà, quand t'as 2000 personnes au Héron, on en parlait, il faut gérer les commandes de bouffe, il faut gérer les commandes de boissons, la queue aux chiottes, il faut gérer ton public. Y a des problèmes de partage de l'espace, il y a des problèmes de parking, il y a des problèmes de plein de choses. Et donc, est-ce qu'on a envie d'être encore plus gros, d'avoir encore plus de problèmes de parking, encore plus de monde à gérer, encore plus de queues, etc. Non, même si on pourrait agrandir le bâtiment, voilà, je pense qu'on est, on est un peu à la limite de l'espace. Après, c'est pas moi qui ai le dernier mot là-dessus, mais voilà, je pense qu'on est assez, raccord, que ce soit l'équipe ou nos patrons, sur cette question-là, ouais.
Mais c'est vrai que l'explosion des guinguettes, c'est totalement dément, hein, depuis le confinement aussi, peut-être que vous l'avez observé. Et justement, ça me permet de rebondir et de vous poser une question. Est-ce que le Maine-et-Loire, ce serait pas l'un des départements les plus développés au niveau des guinguettes, Tucker ?
C'est une bonne question. C'est vrai qu'on en a énormément chez nous. Après, je sais pas comment c'est tout le long de la Loire.
C'est très ligérien, les guinguettes, effectivement.
Ouais, c'est
en dehors de la Loire, ouais. Il y en a quand même... Ouais. Pas beaucoup, il y en a qui se sont développés parce que c'est un business et un argument commercial. Et ouais. Comme ça qu'on a des guinguettes au bord de la Vilaine à Rennes ou des choses et tout, ouais. Même en Picardie, enfin un peu partout en fait. Dès qu'il y a un cours d'eau, ça pose pas de problème. Après, je pense, pour répondre à ta question de manière claire, oui, on est un des départements les mieux équipés en guinguettes, où il y a une tradition un peu historique quand même là-dessus. Maintenant, effectivement, s'il faut te donner le trio gagnant, le tiercé gagnant des départements avec des guinguettes en France, on n'a pas assez révisé avant de venir.
Je pense que personne n'est capable de le dire à l'heure d'aujourd'hui, mais bon.
Si, je pense que...
Tu penses ?
Il y a des cartographies, des chiffres qui existent. Il faut chercher un peu, mais j'ai déjà vu des choses passer.
On essaie.
Effectivement, ouais. J'ai envie de te dire, tu sais, les guinguettes, c'est un peu comme les brasseries artisanales. C'est un petit peu bête, hein, ce que je veux dire, mais je trouve que c'est un bon comparatif. C'est-à-dire, il y a encore 20 ans, t'en avais une, deux, trois, un peu précurseurs, etc. Ça existait parce que c'était la volonté de le faire et que c'était pas tendance. Ça existait parce qu'il y avait des gens qui aimaient vraiment ça. Puis 20 ans, 25 ans après, des brasseries artisanales, t'en as partout, dans tous les départements. par dizaine, et bah, les guinguettes en Maine-et-Loire aujourd'hui, je pense qu'il y a 20 ou 25 ans, tu en as peut-être en avoir deux ou trois, je ne sais pas si elles existent encore. Mmh. Et aujourd'hui, tu en as par dizaines en Maine-et-Loire. Quoi.
C'est ce que tu disais, c'est, ouais. Je pense que ça répond aussi à une demande, c'est-à-dire que quand tu as vécu le confinement, tu es 8 semaines chez toi, bah, tu veux être dehors. Et en fait, au bout d'un moment, bah, pouvoir être avec tes potes, t'asseoir dans l'herbe face à l'eau, avec ta bière, ton vin et ta frite, bon bah évidemment que maintenant, il y en a absolument partout, parce que les gens veulent ça. C'est...
Ah, puis ce qui est intéressant aussi, c'est le paysage angevin. On a quand même énormément de choses différentes, hein, et la Loire en est, je pense, un bon exemple. On n'a pas encore donné vos adresses à vous deux, parce que forcément, voilà, si on a envie d'aller au Héron Carré, au Rouge et Loire, bon, voilà, pour les angevins qui ne sont jamais venus dans vos restaurants, et ben, je vous laisse balancer les adresses et les horaires, en commençant par toi, Étienne, le Héron Carré.
Bah, le Héron Carré, c'est Héron Carré, promenade Yolande d'Aragon, parc Balzac, 49 100. Angers, si je ne dis pas de bêtises. Non, mais c'est à l'entrée du parc Balzac, côté Maine, juste à l'entrée, y a un petit chemin, et vous venez. Et en termes d'horaire, là, on a des horaires pour le mois d'avril. Donc, on fait 11h-22h du dimanche au jeudi, 11h-23h vendredi-samedi. Et ça, c'est pour le lieu et le bar. Et, en cuisine, on est à midi 14h30, pardon, et 18h30, 21h30 pour la cuisine, mais par contre, à partir du 1er mai, on passe de 11h à 23h du dimanche au jeudi. On ferme à minuit les vendredis et samedis. Et la cuisine, ça reste midi 14h30, mais au lieu de fermer à 21h30, ça passe à 22h.
Et voilà. Les réseaux sociaux aussi, peut-être, compte Instagram, Facebook.
Facebook, Instagram, on est là.
Thread. Et de cœur de votre côté, du côté du Rouge et Loire?
Ouais, Rouge et Loire, bah, on est au Ponce, avenue de la Boire Salée. On est fermé le mardi, nous en avril, on ouvre de 11h à 22h et jusqu'à 23h vendredi samedi. Et à partir de mai, c'est 7 jours sur 7.
Ok, donc les jours fériés, vous les faites aussi?
Ouais.
Oui, mais ça, c'est parce qu'on est dans l'hôtellerie café restauration.
Voilà, bah, en tout cas, si nos auditeurs ont un petit creux, une petite soif, voilà, n'hésitez pas à vous rendre là-bas. Avec nous, c'était Pierre-Antoine Guérin, donc j'ai appelé Tucker toute l'interview, responsable de la guinguette du Rouge et Loire, et Étienne Mater, du coup, cette fois, je le fais bien, programmateur du Héron Carré. Merci les gars d'avoir pris ce temps.
Merci à toi.
18h10, 19h, Topette, sur Radio G.